Les colloques du Collège de France.
Bonjour et bienvenue à tous. Notre premier orateur est le professeur William Chabas, qui va nous parler du génocide norme de droit coutumier, mais depuis quand ? Le professeur Chabas de l'Université de Middlesex à Londres est spécialisé en droit international des droits de l'homme et en droit pénal international. Il a publié plus de 20 ouvrages dans les domaines de la discrimination raciale, du crime de génocide, de la peine capitale, de la Cour pénale internationale, de la Convention européenne des droits de l'homme et du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le professeur William Chabas réunit sur sa tête les plusieurs casquettes. D'abord, en tant qu'universitaire, il a, comme je l'ai dit, publié un certain nombre d'ouvrages. Il est également professeur émérite à l'université de Leiden et à l'université de Galway en Irlande. Il a été chercheur invité à l'école des affaires internationales de Paris, Sciences Po. Et il est également un praticien du droit privé. Il est avocat au barreau du Québec et door tenant à Londres. Et il a plaidé devant plusieurs cours et tribunaux nationaux et internationaux, notamment donc la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale et la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. Et je finirai en signalant que le professeur Chabas a préparé les rapports quinquennaux du secrétaire général des Nations Unies sur le statut de la peine capitale pour 2010, 2015 et 2020. Professeur Chabas, la parole est à vous.
Le titre de mon exposé fait référence au droit coutumier. Il y a en droit international deux sources principales, le droit conventionnel, les traités, dont la Convention sur le génocide, et le droit coutumier. Le droit coutumier qui est un droit qui n'est pas écrit, qui n'est pas codifié, et c'est un droit dont la preuve est faite par deux éléments, la pratique des États, et une reconnaissance par les États que cette pratique corresponde à une obligation juridique. Et donc, lorsqu'on parle dans le dessin de M. Chapet de génocide, la question n'est pas l'application de la Convention sur le génocide, mais plutôt si on peut parler d'un droit coutumier d'interdiction du crime de génocide, de reconnaissance et d'obligation qui correspondent à ce crime en 1915. J'ai été très content de voir le dessin sur le dépliant de notre colloque parce que moi je l'emploie depuis une dizaine d'années dans mes cours, c'est dans mes diapos constamment pour provoquer une réflexion par mes étudiants surtout quant à l'existence historique du crime de génocide et non seulement le fait qu'il y a des génocides commis dans l'histoire, mais que le génocide est aussi reconnu comme un crime qui doit être puni et qui doit être puni en fonction du droit international et non seulement dans les systèmes de droit internes. Et donc c'est ainsi, Patrick Chapet dit, ne vous inquiétez pas, le mot génocide n'existe pas encore. Mais à l'époque, il y avait un autre terme qu'on a utilisé, pour la première fois d'ailleurs, dans un contexte de droit international, afin de décrire les atrocités commises par les Turcs, par le régime ottoman, contre les Arméniens. Et là, je fais référence à la déclaration conjointe de la Russie, du Royaume-Uni et de la France en mai 1915. C'est la première fois, à ma connaissance, que les États déclarent qu'un autre État est responsable pour les crimes commis à l'égard de ses propres citoyens et s'engage à tenir responsable personnellement les auteurs de ces crimes. La déclaration, comme vous voyez, parle de crimes, nouveaux crimes de la Turquie contre l'humanité et la civilisation. On sait que l'expression « crime contre l'humanité » est employée depuis le 18e siècle par Voltaire, par Robespierre, par Beccaria. Mais l'expression n'est pas employée dans un contexte juridique. Il n'y a pas de définition reconnue. Donc, c'est extrêmement important, cette déclaration. On sait aussi que le projet de déclaration proposé par le ministre des Affaires étrangères russe ne parlait pas de crimes contre l'humanité, mais plutôt de crimes contre la chrétienté. Et c'est le ministre français Delcassé qui s'objecte et qui dit, et je cite, il faut tenir compte de l'intérêt qu'il y a à ménager le sentiment des populations musulmanes qui vivent sous la souveraineté de la France. Les Anglais sont d'accord pour modifier la déclaration et les Russes acceptent aussi qu'on emploie l'expression « crime contre l'humanité ». On a déjà fait référence, Samantha, dans son introduction, à parler de l'ouvrage de Philippe Sands et une distinction qu'on peut faire entre le crime contre l'humanité et le crime de génocide. À mon avis, je ne suis pas complètement d'accord avec Philippe Sands dans son analyse des distinctions entre ces deux catégories de crimes. Je trouve qu'il est préférable de comprendre le crime de génocide comme une catégorie extrême, si vous voulez, de crimes contre l'humanité. Les deux catégories sont apparentées. Et ce n'est pas particulièrement utile de suggérer qu'ils sont sur deux finalités différentes. Je reviens là-dessus dans quelques minutes. Après la guerre, je parle de la Première Guerre mondiale, les négociations se tiennent ici à Paris, à la conférence de paix de 1919. Il y a une commission qui est établie afin de préparer le cadre juridique des poursuites des Allemands pour les atrocités, mais également les Turcs pour les atrocités, c'est-à-dire de tenir responsables, après la guerre, les auteurs d'atrocités et de crimes de guerre. C'est la première fois que ça se fait sur le plan international. Et les 15 grands experts en droit international se réunissent ici à Paris pendant 2 mois, janvier, février 1919, et prépare des projets d'articles pour les conventions qui seront adoptées plus tard pendant l'année. Lors des débats, le représentant de la Grèce, Politis, qui est un très grand juriste, je crois qu'il était doyen d'une fac de droit ici en France d'ailleurs, et Politis dit, et je cite, « Il faudrait comprendre dans cette poursuite d'ordre international des faits qui sont contraires à ce qu'on pourrait appeler la loi humaine, la loi morale. » Et Politis est à la recherche, enfin, d'une justification juridique pour la poursuite de crimes qui n'étaient pas codifiés avant 1919. Ils ne se trouvaient pas dans les textes. On a parlé dans la déclaration de crimes contre l'humanité, mais si les Turcs avaient dit « mais c'est écrit où ?» Mais c'était écrit nulle part. Alors, pour Politis, donc, la manière de justifier ces poursuites était de faire appel à ce qu'il appelait la loi humaine, la loi morale. Et on va voir la même approche par les tribunaux à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, certaines dispositions, dans un premier temps dans le traité de Versailles et dans les autres traités, avec les pays vaincus, Trianon, Saint-Germain, j'oublie le troisième, enfin, il y avait 4 grands traités. Et puis, on arrive enfin au traité de Sèvres, qui est négocié en 1920 par la conférence des ambassadeurs. Et là, les Anglais disent, on ne peut pas simplement répéter les clauses dans les autres traités, y compris Versailles, parce qu'on s'est engagé en 1915 à poursuivre les Turcs, les Ottomans, non seulement pour les crimes de guerre commis contre nous, mais pour les crimes commis contre leurs propres citoyens, les Arméniens. Et c'est ainsi qu'on ajoute, on va ajouter une disposition au traité de Sèvres, mais qui n'est malheureusement pas ratifiée, donc les procès n'ont jamais eu lieu. J'ajouterai que le traité de Sèvres promet aussi, au moins soulève la possibilité de faire juger les Turcs devant un tribunal à être créé par la Société des Nations. Donc, un autre développement important, pour la première fois. Mais passons donc à la Deuxième Guerre mondiale. On a déjà mentionné le nom de Raphaël Lemkin, c'est lui qui va inventer le mot génocide. Je veux, écoutez, avant de passer, quelque chose, je veux vous montrer concernant 1915. Et ça, c'est des textes qui viennent du ministère des Affaires étrangères à Londres et qui sont assez récents, où effectivement les diplomates ou les avocats du ministère des Affaires étrangères refusent d'utiliser, là je parle de maintenant, d'employer le mot génocide pour décrire ce que les Turcs ont fait contre les Arméniens en 1915. Et la justification, comme vous voyez, que la Convention de 1948, qui n'est pas rétroactive, a été rédigée afin de réagir à la Shoah, et comme, mais le terme peut être appliqué aux tragédies subséquentes, comme celle du Rwanda, la Convention ne peut pas être, ou la notion, le crime ne peut pas être appliqué rétroactivement. Je crois que c'est toujours la position du gouvernement britannique. Maintenant, ça ne correspond pas au développement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On sait que Lemkin a inventé le mot. Et Lemkin est ici à Paris le 1er octobre 1946, lorsque le jugement de Nuremberg est rendu. Il est à l'hôpital américain. À Neuilly. Et Lemkin, il est pas content avec le jugement de Nuremberg pour deux raisons. La première raison, moins importante, je crois, c'est que son mot, chéri, n'était pas employé dans le jugement par les juges. Certains des avocats, pendant le procès, l'ont employé, mais les juges ont plutôt opté pour l'expression qui se trouvait dans la charte du tribunal. Crimes contre l'humanité. Mais les actes qui correspondaient aux actes de génocide étaient effectivement punis par le tribunal de Nuremberg comme crimes contre l'humanité. Mais là, Lemkin a un autre grief avec le tribunal de Nuremberg parce que les juges ont décidé de restreindre la notion de crimes contre l'humanité aux actes commis pendant la guerre. Et tout ce qui est fait par les nazis avant le début du mois de septembre 1939, lorsque la guerre a commencé, était déclaré hors compétence du tribunal militaire international. Alors, Lemkin retourne immédiatement à New York, où il habite. Il est réfugié de l'Europe. Et il circule lors de la première session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui commence à New York en fin octobre 1946. Il réussit à convaincre trois ambassadeurs de l'Inde, de Panama et de Cuba à proposer une résolution intitulée « Crimes de génocide ». C'est Lemkin qui rédige le projet. C'est l'ambassadeur cubain qui le propose à l'Assemblée générale vers la fin du mois de novembre, mais il lit un discours qui est, semble-t-il, rédigé par Raphaël Lemkin et qui déclare que le but de la résolution est de corriger les défauts du jugement de Nuremberg. Alors, la résolution proposée, voici le projet de Lemkin, qui commence dans le préambule, attendu qu'au cours de l'histoire et plus spécialement les temps derniers, de nombreux cas de destruction partielle ou totale de groupes nationaux, etc., etc. Donc, l'homme qui fait appel à l'histoire, ce paragraphe est un peu abandonné pendant les négociations de la résolution, mais ce qui reste dans cette résolution de 1946, c'est la phrase que vous voyez au fond de la page. On a vu perpétrer dans le passé. Cette résolution, qui va également demander au Conseil économique et social de préparer un projet de convention qui sera adopté 2 ans plus tard. Mais tout le monde sait en 1946 que l'Assemblée générale ne peut pas, n'est pas une législature, ne peut pas légiférer. Et donc, ce n'est pas l'Assemblée générale qui crée le crime de génocide, mais ce que l'Assemblée générale peut faire est de déclarer l'existence d'un crime de génocide qui existe déjà. Et donc, la résolution est extrêmement importante. Je vous ai montré la position des Britanniques. Ils ont voté, d'ailleurs, pour cette résolution, mais ils ne l'ont pas bien compris. Ils l'ont pas bien compris ou ils l'ont oublié, parce que la résolution de l'Assemblée générale, adoptée le 11 décembre 1946, reconnaît que le crime de génocide était un crime en droit international, non seulement le 11 décembre, mais le 10 décembre, et le 9 décembre, et le 8 décembre, et ainsi de suite. Et la difficulté, question que je pose dans le titre de mon intervention, c'est: on peut remonter jusqu'à quand? Est-ce qu'on peut remonter à 1915, 1904, pour le génocide des Herero et des Nama en Namibie, 1871 pour les communards, 1848 pour les Irlandais victimes de la famine? Ça, c'est la difficulté. Lorsqu'on essaie d'identifier une règle coutumière de criminalisation du crime de génocide. La Convention Samantha a déjà signalé la phrase, cette phrase importante dans le préambule de la Convention de 1948. J'ajouterai seulement que les juges de la Cour internationale de justice, dans l'affaire Croatie contre la Serbie, rendue en 2015, ont affirmé que la Convention ne peut pas avoir de portée rétroactive. Donc, on ne peut pas poursuivre un État pour un génocide commis avant l'adoption, ou plutôt l'entrée en vigueur de la Convention en 1951, et la date peut varier aussi selon si l'État en question a ratifié la Convention sur le génocide. En 1951, la Cour internationale de justice se prononce sur la Convention sur le génocide. C'est ce qu'on appelle un avis consultatif, comme l'avis, par exemple, rendu par la Cour en juillet dernier concernant l'illégalité de la colonisation ou de l'occupation de la Palestine, et dans lequel il y a des déclarations intéressantes. Les principes qui sont à la base de la Convention sont des principes reconnus par les nations civilisées, expression qu'on n'utilise plus, comme obligeant les États même en dehors de tout lien conventionnel. Et là, plus loin, on parle du caractère universel à la fois de la condamnation et de la coopération nécessaire, etc. Alors, ces deux textes sont souvent invoqués pour affirmer que les textes de la Convention sont également les textes de droit coutumier. Et vous pouvez vous demander, mais c'est quoi l'utilité donc de la coutume si nous avons déjà une convention qui dit la même chose? C'est un fait qu'il n'y a que 153 États qui ont ratifié la Convention sur le génocide. Certains ont ajouté des réserves à la Convention. Et donc, il y a une quarantaine d'États, y compris certains États assez grands et importants, comme le Japon, qui n'ont jamais ratifié la Convention sur le génocide. Donc, la Convention, le droit coutumier, a une certaine valeur à l'égard de ces États-là, même en absence d'une ratification de la Convention sur le génocide. Et puis, dans un deuxième temps, c'est également important, le droit coutumier, évidemment, pour le problème qui me préoccupe ici aujourd'hui, le fait que le crime de génocide est commis avant l'adoption de la Convention, avant l'adoption de la résolution. Est-ce qu'on peut dire que le droit coutumier est applicable avant le 11 décembre 1946? Et si oui, jusqu'à quand? À l'heure actuelle, dans notre, les années 90 et le 21e siècle, parfois on fait appel au droit coutumier, notamment devant la Cour européenne des droits de l'homme, dans les débats sur certaines définitions du crime de génocide. Les États, lorsqu'ils ont ratifié la Convention sur le génocide, ont souvent modifié légèrement la définition du crime de génocide. C'est le cas de la France, dans le Code pénal, qui a remplacé les quatre catégories, groupe national, racial, religieux, avec groupe basé sur des critères arbitraires. Et donc, les États sont libres de le faire. Plusieurs États ont ajouté, par exemple, le groupe politique à cette énumération dans la définition de génocide, dans leur droit interne. Puis ils sont libres de le faire, mais dans la mesure où ils ne l'appliquent pas rétroactivement. C'est là où les difficultés se présentent, parce que la Convention européenne des droits de l'homme dit qu'on ne peut pas juger quelqu'un ou punir quelqu'un pour un crime qui n'était pas un crime en droit interne ou en droit international lorsque le crime était commis. C'est un texte qui vient d'ailleurs de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée ici à Paris aussi le 10 décembre 1948. L'affaire principale est une affaire contre la Lituanie dans laquelle j'étais conseil de la Lituanie. C'était la Lituanie, après son indépendance, a modifié la définition de génocide pour ajouter les groupes politiques. Pas de problème. Mais la Lituanie a décidé de juger des responsables du régime soviétique pour des actes commis pendant les années 50 comme crime de génocide. Et en appel devant la Cour européenne des droits de l'homme, on a débattu si on pouvait juger quelqu'un pour un crime de génocide contre un groupe politique pendant les années 50, même si la définition dans la Convention sur le génocide ne parle pas de crime de groupe politique. Mais la résolution de 1946 le fait. La liste de groupes protégés par la résolution de l'Assemblée générale de 1946 est plus large. Et les groupes politiques sont identifiés dans la résolution. Alors, c'est ce que j'ai plaidé devant la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai réussi à convaincre 8 juges de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. Pour un plaideur, c'est quand même pas mal. La seule difficulté, c'est qu'il y a 17 juges dans la Grande Chambre. Vous avez 8 sur 17, une voix de trop contre moi. Et donc, les juges ont rejeté cet argument. Je trouve que souvent, on perd un procès et on accepte que les juges étaient quand même raisonnables et peut-être qu'on méritait de perdre. Mais je ne peux pas pardonner les juges pour ce jugement. Je pense que c'était une erreur. Mais je donne cet exemple pour démontrer l'importance de la coutume, si vous voulez, et des débats sur le contenu du crime en droit coutumier. Bon, on me signale qu'il faut terminer. Une dernière idée que je veux partager avec vous. Le débat sur la rétroactivité, c'est-à-dire sur l'existence en droit coutumier du crime de génocide avant 1946, et c'est un débat politique, essentiellement. On n'a pas de jurisprudence sur ce débat. On va, bien sûr, citer le droit lorsqu'on fait un débat avec les fonctionnaires du gouvernement britannique. On va citer des sources juridiques, mais Il n'y a pas de tribunal qui va trancher la question. Il n'y a pas de débat public sur le plan multilatéral aussi. Mais il y a un débat qui correspond à notre débat sur le droit coutumier de génocide. Et ça, c'est un débat au sujet de crimes contre l'humanité. Vous savez, certains, y compris le président de la France, ont employé l'expression « crime contre l'humanité » afin de décrire certains actes commis bien avant la codification de crimes contre l'humanité dans la charte du tribunal de Nuremberg en 1945. Voici la déclaration adoptée par la conférence de Durban en 2001, la conférence des Nations Unies, une déclaration adoptée par consensus. Et j'ai indiqué en jaune où on déclare, on reconnaît que l'esclavage et la traite des esclaves constituent un crime contre l'humanité et qu'il aurait toujours dû en être ainsi. Ça, c'est un bout de phrase qui est extrêmement controversé. Les États occidentaux ont insisté sur le fait qu'on emploie, on utilise cette expression qu'il aurait toujours dû en être ainsi afin d'éviter de reconnaître que la traite des esclaves était, il y a 100 ans, il y a 200 ans, un crime contre l'humanité. On peut imaginer peut-être le même débat au sujet du génocide. Mais ceci dit, il y a eu des objections. C'est comme ça qu'on adopte maintenant aux Nations Unies une déclaration par consensus. On adopte la déclaration et par la suite, les États ajoutent leurs réserves. Et c'est ce qui a été fait par les Barbades. Au nom de plusieurs autres États des Caraïbes, nous déclarons que le traité transatlantique des esclaves constitue des crimes contre l'humanité. Et on a la même chose de Kenya. Il y a aussi une déclaration de Trinité et Tobago au même effet. Kenya, au nom des États africains, dit que la traite d'esclaves, la traite esclavagiste est un crime depuis toujours, un crime contre l'humanité, depuis toujours et en tout temps. Comment sortir de ces difficultés? Ma suggestion est d'employer une autre expression qui n'a pas encore été évoquée. On parle en droit international de normes impératives. On emploie une expression latine, jus cogens. Le jus cogens, c'est 5 ou 6 catégories de normes reconnues maintenant, généralement, par des organes comme la Commission de droit international, applicable à une catégorie de droit assez restreinte, le droit à l'autodétermination, l'interdiction du génocide, l'interdiction de la discrimination raciale, apartheid. Personne n'a étudié, à ma connaissance, la question de l'application de cette notion de jus cogens dans le temps, c'est-à-dire bien avant la période moderne. Je me dis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une notion qui, d'ailleurs, découle aussi de notions de droit naturel, de la moralité, etc. C'est des normes qui sont partagées par tout le monde. On appelle ça « jus cogens ». C'est peut-être la réponse à M. Chapat la prochaine fois, où il peut peut-être mettre quelqu'un dans son dessin qui dit « Oui, mais c'est du jus cogens ». C'est ma réponse à la question. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.